Bonjour à tous. On va tous bien?
Oui.
Par la grâce de Dieu?
Oui.
Par la grâce de Dieu, ça va toujours bien. Même quand ça ne va pas, ça va bien. Parce que sans la grâce de Dieu, ça aurait pu être pire. Donc c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, ça va toujours bien. Quand on vous demande est-ce que ça va bien. Et moi je le dis comme ça, toujours par la grâce de Dieu. Les gens disent, mais pourquoi tu dis par la grâce de Dieu? Mais parce que sans la grâce de Dieu, ce serait pire. N'est-ce pas? Bien. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, je vais continuer, nous allons continuer notre étude de série que nous avons commencée sur les biographies de quelques personnes, personnages de la Bible. Et ces personnages de la Bible, nous avons intitulé hashtag je suis telle personne. On n'a pas dit achetable, mais hashtag. D'accord? Je suis Daniel, je suis telle personne. Et après avoir vu il y a 2 semaines avec notre frère Stéphane Demers, hashtag je suis Moïse, ce matin nous allons voir hashtag je suis Daniel. Et nous allons regarder ensemble la vie de Daniel et voir si nous pouvons, oui ou non, dire ou nous identifier à la vie de Daniel en disant oui, je suis Daniel. Ce matin, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Il y en a 2 ici, c'est lequel qui marche, ou tous les 2 fonctionnent. Parfait. Et ils ne prennent pas de chance, c'est bien. Alors, en un mot, nous pouvons nous poser la question de savoir qui est Daniel. Nous allons regarder la biographie de Daniel, un peu. Qui est Daniel? Si on vous posait la question, on pourrait dire comme si. Daniel était vraiment un hébreu. Son nom en hébreu veut signifier jugement divin ou Dieu est mon juge. Il est un personnage d'un livre de Daniel et fait partie de la Bible. Il faut aussi savoir que Daniel est un grand prophète de l'Ancien Testament et de la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, dans la Bible hébraïque. Ça, c'est Daniel. Est-ce que c'est tout, Daniel? Tout ce que nous savons de Daniel? Non. Et en regardant dans la biographie de Daniel, j'ai trouvé ceci. Daniel est le contemporain d'Ézéchiel, de Jérémie et d'Ézéchiel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est ce que certains témoins nous parlent. Qui est Daniel? Il est le témoin, il est contemporain de Jérémie et d'Ézéchiel, un juif d'origine noble de Juda, probablement de la race royale, physiquement beau sans produits cosmétiques, c'est-à-dire que lui n'avait pas besoin d'aller voir, qu'on retouche par-ci, par-là, il n'avait pas besoin du Botox. Vous comprenez? Il était très beau de figure et en tout, en général, dans ce sens-là. Il était vraiment instruit, doué de sagesse et d'intelligence. Jeune, âgé de 16 ans, quand il fut amené avec ses amis comme prisonnier à Babylone, par Nebuchadnezzar en 605 avant Jésus-Christ. Compagnon de 4 rois. Il était compagnon de 4 rois. C'était pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il a travaillé au service de 4 rois. Il était à la fois homme d'État, un prophète, un leader et un administrateur expérimenté. Et surintendant de tous les sages de Babylone et du gouvernement de la province, gouverneur de la province de Babylone. Bilingue, il parlait la langue hébreu et araméen. Il fut choisi pour travailler dans la cour du roi Nebuchadnezzar à Babylone. Captif, il était un captif aussi dans la plus grande ville sophistiquée de Babylone, Hollywood des temps anciens. C'était une ville vraiment connue. Donc, nous pouvons dire que Daniel a eu une carrière semblable à celle de Joseph. Son interprétation des songes et sa sagesse qui dégageait de lui exceptionnelle a fait de lui un haut fonctionnaire de l'Empire. Il n'était pas n'importe qui. Mais nous pouvons regarder si Daniel n'était pas n'importe qui avec tout ce que nous venons de voir brièvement. Daniel était qui en réalité? Qu'est-ce qui a fait que Daniel est ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que le nom de Daniel est dans la parole de Dieu? Et tout ce que nous savons de lui, et ce que nous disons de Daniel. Pourquoi? Premièrement, Daniel était un homme saint. J'aimerais que nous regardions dans nos écrits, dans la parole de Dieu, Daniel chapitre 1. On va regarder cela. Pour ceux qui ont leur Bible. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez prêter celui du voisin. S'il le refuse, vous lui arrachez sa Bible. Puis il n'y a pas de problème. Sinon, peut-être d'autres vont prêter. Daniel chapitre 1. Nous pouvons voir dedans verset 8. Je vous épargne toute l'histoire de Daniel parce que Daniel a été pris captif depuis Babylone pour amener en captivité, déporté, enlevé de ses racines, de sa passion, de sa nation pour aller dans un autre pays. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons lire l'histoire de Daniel. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller des mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Mais avant cela, quand Daniel a été amené à Babylone, conduit à Babylone par la déportation, parce que la nation dans laquelle Daniel faisait partie avait péché contre l'Éternel et Dieu a soumis Israël à d'autres nations. Pour les apprendre à se repentir et à revenir à Dieu. Dieu soumet Israël sous la domination de d'autres nations. Et finalement, Daniel se ramasse dans ce pays-là. Il n'a pas choisi lui. Il était jeune. Il n'avait que 16 ans. Un ado, on pourrait dire comme ça. Mais sauf Daniel n'était pas n'importe quel ado. Daniel n'était pas n'importe quel ado. Daniel arrive dans ce pays. Daniel, on leur propose de manger. Ils étaient quatre avec ses amis. Ils étaient quatre. Trois personnes plus lui, ils étaient quatre. Ses amis. Quand on l'appelait Anania et Azaria et avec lui, Michaël. Plus Daniel lui-même. Étant jeune, Daniel décide de ne pas manger le repas qu'on leur présente. Le roi les avait choisis. Si nous regardons à partir du verset 3, quand la nation a été conquise, le verset 3 nous dit, « Le roi ordonna à Aspenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, et de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. » Et c'est ainsi que Daniel a été choisi. C'est tout un CV ça, tout un critère pour être choisi pour travailler dans la maison du roi. Quand vous partez déposer vos CV là, est-ce qu'on vous demande que vous soyez beau? On ne demande pas ça, ce n'est pas dans les critères pour vous empocher. Mais pour que Daniel puisse être dans la cour du roi, il fallait qu'il soit beau. Tous les critères qui étaient établis, c'était énorme. Mais Daniel répondait à tout cela. Cependant, il était esclave. Et Daniel va être dans ce contexte-là. On leur propose de la nourriture pour les engraisser. Pour que 3 ans plus tard, quand ils vont comparaître devant le roi, alors qu'ils soient beaux, qu'ils soient en pleine forme, et que le roi soit content d'eux pour pouvoir les mettre à son service. Daniel dit au chef des eunuques que lui, il ne mangera pas leur nourriture, qu'il ne se souillera pas de leur nourriture. Hey! Je vous dis là, on va dire, jeune homme là, calme ton pompon là. Ton roi, nous l'avons dominé, on l'a pris, il est esclave ici. Toi, tu es esclave ici. Et on te donne à manger, tu dis, tu vas avoir le choix à dire qu'est-ce que toi tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas. Non, c'est nous, on va te dire qu'est-ce que tu vas manger ici. Et puis tu vas manger, tu la fermes. Ils n'ont pas dit ça à Daniel. Daniel a eu le courage de dire qu'il ne mangera pas. Qui ne va pas se souiller. C'est même une insulte pour quelqu'un comme ça, pour des rois, pour la cour du roi. Moi, ma nourriture que je mange, on te donne, tu refuses de manger, puis tu prétends dire que c'est souillé. Mais tu viens d'où, toi? Mais Daniel n'a pas eu peur de tout cela. Il s'est affirmé. Pourquoi Daniel ne voulait pas se souiller? Parce que dans cette culture, ils avaient l'habitude de faire une libation avec les aliments consacrer l'aliment à des idoles avant de les manger. Le vin et la nourriture faisaient partie. Alors Daniel connaissait cela. Et il y avait des aliments, c'est-à-dire des animaux ou la viande qui étaient tués, qui étaient considérés impurs dans l'Ancien Testament. Et Daniel, connaissant la loi de Moïse, voulait se garder pur. Et dans Lévitique, il est écrit, « Car vous serez saints parce que je suis... » Daniel connaissait ce verset-là. Il se garde saint, dans la pureté. C'est pourquoi j'ai mis Daniel un homme saint. Il refuse de se souiller, même s'il est en territoire inconnu, même s'il est dans un endroit où il n'y a pas de force de pouvoir pratiquer sa religion. Il est loin de sa nation, loin du temple de Jérusalem, loin de toute forme d'adoration par rapport à Jérusalem, l'adoration du véritable Dieu. Mais Daniel n'oublie pas son Dieu, il garde une vie de sainteté et de pureté. Il est jeune, il a 16 ans seulement. Daniel refuse le compromis. Daniel refuse d'être corrompu. Daniel dit, moi je vais marcher selon mon Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne, frères et sœurs? Cela nous enseigne que nous pouvons vivre la sainteté de Dieu partout où nous sommes. Nous devons être saints partout. Il n'y a pas un endroit où le croyant peut vivre sa sainteté et dans un autre endroit, il faut qu'il soit dans la débauche. Il n'y a pas de place pour cela dans la vie du croyant. La vie du croyant est un lieu saint et il doit marcher dans la sainteté tous les jours, dans sa relation avec son Dieu. Et Daniel, c'est ce qu'il faisait. Il n'a pas eu froid aux yeux pour se laisser dominer. Quelques-uns d'entre nous diraient, « Hey, Daniel, s'il te plaît, on n'est pas chez nous. » Tu comprends? On n'est pas chez nous. Donc, mange et tais-toi. Ne nous mets pas dans le trouble. Reste tranquille. Et si tu ne veux pas manger, laisse faire. Nous autres, on va manger. Il ne s'est pas laissé influencer par personne. Je vous pose la question, vous les jeunes, à l'école, comment vous vivez votre foi? Votre foi est-elle exemple de toute corruption? Comment vos camarades vous influencent pour vous faire faire des choses que vous ne voulez pas? Tout simplement parce que vous voulez les plaire. Vous compromettez votre foi. On va vous donner une petite chose, vous allez dire, ah, c'est pas grave, c'est un péché mignon. Mais est-ce que tu sais que ce péché mignon que tu vas prendre dans ta vie peut être un point pour sauter toute ta foi chrétienne? Peut détruire ta foi, va t'amener loin de Dieu. Les compromis, on les fait dans plusieurs domaines. Et même des vieux chrétiens. Daniel, lui, était en terre étrangère. Mais toi, tu n'es pas forcément tout le temps en terre étrangère. Tu es chez toi, dans ton pays. Des fois, tu marches au milieu des païens, c'est vrai, ça peut être vu comme une terre étrangère, au milieu des païens, au milieu des gens qui ne croient pas au même Dieu que toi, au milieu d'une culture qui ne comprend pas ta culture chrétienne, qui ne comprend pas ton langage chrétien, qui ne sait pas qui est Dieu, et que toi, tu vis avec eux. Mais comment tu vis ta foi avec eux? Les laisse-t-il te dominer, t'influencer au point que tu t'éloignes de Dieu? Payer sous la table. Combien de chrétiens font ça qu'on ne sait pas? Si Dieu pouvait mettre un grand écran comme ça, et puis tout ce que les chrétiens, y compris moi-même et chacun de nous, ce que nous faisons en cachette, qu'ils projettent sur un grand écran, seras-tu fier ce matin de ta marche et de ta foi chrétienne? Si on pouvait savoir tout ce que tu sais dans ta tête en secret, pourrais-tu dire que ta foi est exempte de toute corruption? Daniel refuse de se souiller. Non, il refuse le compromis. Il refuse de vivre en concubinage. Il refuse toute forme de compromis qui peut nuire à sa foi. Parce qu'il veut demeurer saint. Il veut être un instrument entre les mains de Dieu pour être utile à tout moment. Il se garde pur. Daniel, non seulement est un homme saint, Daniel est un homme de prière et de foi. Nous pouvons regarder dans la Bible encore. Ce matin, je veux vous obliger à ouvrir vos Bibles. Si vous n'en avez pas, dites à votre voisin, je vais lire avec toi. Sinon, dimanche prochain, s'il te plaît, viens avec ta Bible. Dans Daniel chapitre 2, verset 17, nous pouvons regarder ensemble. Daniel est un homme de prière. Il est dit dans le chapitre 2, verset 17. On peut le regarder ensemble.
Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. »
Merci beaucoup. Ici, Daniel a appris que le roi a fait un songe. Le roi a rêvé dans sa nuit et il ne comprenait pas son rêve. Là, il fait asseoir tous les sages du pays, tous les devins du pays, tous les astrologues du pays, tous les sorciers du pays. Il les appelle dans son palais et il leur demande de lui révéler son rêve et de l'interpréter. C'est ce que Daniel est confronté à cela. Et non seulement lui, avec tous ses camarades. Alors, imaginez-vous que la reine Élisabeth appelle tout son royaume, dit « Moi, j'ai fait un songe, mais je ne vous dis pas comment mon rêve s'est passé. Mais comme vous êtes des sages et des savants, vous devez non seulement me dire ce que moi j'ai rêvé, et puis me donner l'interprétation. » Pensez-vous que cela est possible? Et les sages du pays, quand ils se sont réunis, ils ont dit au roi, « Dis-nous seulement ce que tu as rêvé et nous, on va te donner l'interprétation. » Le roi a refusé. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Le roi dit, « Si vous ne me donnez pas, non seulement ce que j'ai rêvé, vous ne me le dites pas, et que vous ne m'interprétez pas ce que j'ai rêvé, vous allez tous mourir. » Y compris Daniel et ses trois amis. Ils vont tous passer au cache. Alors Daniel va rencontrer ses frères, Azaria. Ils vont rentrer dans la prière. Il va leur expliquer tout cela. Ils vont prier. Pourquoi j'ai intitulé Daniel homme de prière et de foi? Daniel fait recours à la prière. La prière n'était pas une option dans la vie de Daniel. La prière n'était pas à dire, c'est un recours de dernière minute. Quand j'ai fait tout ce que je peux, quand j'ai mis tout en œuvre selon moi-même, et ça marche pas, maintenant je vais me mettre à genoux. Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Parce que je ne suis plus capable de rien faire. Non, la prière n'était pas une option pour Daniel. Ce n'était pas un recours de dernière minute. C'était un style de vie. Une façon de se comporter tous les jours. Quotidiennement, Daniel priait. Daniel ne priait pas occasionnellement. Alors quand il a vu la situation, il a amené ça devant ses frères, ils se sont mis à prier. Et Dieu a décanté la situation. Ce que les sages du pays ne pouvaient pas savoir. Le Dieu que Daniel adore, le Dieu des cieux s'est révélé à Daniel et a révélé le songe à Daniel et a donné l'interprétation à Daniel. Daniel se lève, Daniel bénit Dieu. Il le loue, il le célèbre. Si ce n'est pas un homme de prière, ça, dites-moi c'est qui? Qui il est? Daniel est un homme de prière. Il loue Dieu de l'avoir révélé le songe, de lui avoir donné la révélation, de l'interprétation. Et il va rencontrer le roi et il lui dit ce qui s'est passé. Daniel, c'est ce qui se passe dans sa vie. Il prie. Ce matin, j'aimerais savoir quelle place la prière occupe-t-elle dans ta vie, dans ma vie. La prière est-elle une option pour vous et pour nous comme église, comme père de famille, comme mère de famille, comme leader spirituel dans l'église, comme leader dans des postes de ministère? Est-ce que la prière est une option ou vraiment un style de vie? Quand des gens me demandent, Adama, prie pour moi, je vais prier pour eux, je dis oui, je le fais avec joie. Et je le fais des fois dans les larmes devant le Seigneur. Et les anciens ont pris tous les mercredis matin ici, en haut. Soit en prière, on est en réunion. Et mardi, il y a la prière ici, il y a très peu de gens qui viennent. Les mercredis, il y a la prière, il y a très peu de gens qui viennent parce qu'il y a une cellule ici. Et les dimanches matin, il y a des dames qui se réunissent dans le bureau. Et pour prier, vous savez, très peu de personnes viennent à la prière. On a même écrit pour accrocher à la porte, entrer pour prier. Devant mon bureau là-bas, là, c'est écrit, entrer pour prier, dimanche matin. Là, vous pouvez entrer pour prier. Venez à 8h15, vous allez rentrer pour prier. Mais très peu de gens sont engagés à la prière. Peut-être vous allez me dire, ouais, moi je prie à la maison, c'est bien. Mais si on compare dans le verset 10 du chapitre 6, on peut aller voir ça. Si on compare notre vie de prière à celle de Daniel, si nous voulons ressembler à Daniel, si nous voudrons dire « Je suis Daniel ». Oui, tu peux le lire pour moi.
Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant.
Trois fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les chefs des satraques, les chefs et les satrapes ont décidé, c'est-à-dire les 120 personnes que le roi avait établies sur la nation pour pouvoir gérer le pays avec Daniel, et ces hommes-là étaient redevables à Daniel et à deux autres personnes. Et le roi, voyant l'intelligence et la sagesse de Daniel, décida de placer Daniel au-dessus de tous ces chefs de satrapes-là. Et puis, maintenant, ces gens-là étaient jaloux. Ils ont décidé de tendre un piège à Daniel et le faire périr. Et ils ont demandé au roi, signe un décret que toute personne dans les délais de 30 jours adresserait une prière à un autre Dieu que toi, le roi, sera mis à mort. On va le jeter dans la fosse au lion. Et c'est ce qui a été décidé. Et le roi a signé. On veut l'adorer. Est-ce que c'est mauvais pour lui? Il n'est pas chrétien, il va dire, ben adorez-moi. Déjà, l'homme naturellement court derrière ça. Alors, ses chefs vont lui proposer. Il accepte. Mais Daniel, quand cela a été signé, Daniel, on dit, il est rentré dans sa chambre. Il a commencé à prier, comme d'habitude. Daniel n'a rien changé dans son comportement. Il n'a rien changé dans son attitude habituelle. Comme la prière était un style de vie pour lui, une façon de maintenir sa relation avec Dieu et de démontrer sa dépendance totale de l'Éternel, Daniel continuait de prier comme s'il n'y avait même pas eu de loi ou de décret qui a été écrit. Certains d'entre nous diront, mais il est rebelle. Daniel, tu es rebelle, tu n'obéis pas à la loi. La Bible nous dit qu'on doit se soumettre aux autorités. Je vous demande, est-ce qu'il devait se soumettre à l'autorité en ce point-là? À votre avis, si le gouvernement Trudeau décide qu'on ne prie plus ici et qu'on doit l'adorer, devons-nous le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Non, parce que vos noms ne sont pas convaincants. Est-ce qu'on ne doit pas le faire ou on doit le faire?
Non.
On ne doit pas le faire parce qu'il est un humain comme nous. Il boit, il mange, il va aux toilettes comme nous. Il n'a pas créé personne. Il n'est pas Dieu. C'est un homme comme nous. Une seule personne d'autre doit être honoré et adoré, c'est l'Éternel des armées des cieux. C'est lui qui a créé tout et tout lui appartient. Et c'est ce que Daniel fait. Daniel refuse d'adorer le roi. Il rentre dans sa maison et il commence à prier l'Éternel. Parce que nulle autre personne sur la terre que dans les cieux mérite d'être adorée que l'Éternel notre Dieu. Adorer autre chose que l'Éternel, c'est de l'idolâtrie. Et Daniel refuse de compromettre sa foi en faisant l'idolâtrie, en adorant d'autres choses. Il priait 3 fois par jour. Nous mangeons 6 fois par jour, nous autres. Mais nous prions combien de fois par jour? Si on compte tout ce qu'on grignote là, sur le divan, avec un sac de chips, et puis on met la main dedans là. Si tu priais chaque fois comme ça, on sera tous des saints et des saintes. Le monde sera bouleversé. 3 rivières sera bouleversées. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Daniel refuse de prier autre Dieu que l'Éternel son Dieu. Il l'adore 3 fois pour montrer qu'il a une relation avec Dieu, pour montrer qu'il dépend de Dieu, pour montrer sa sincérité et de maintenir cette relation qui ne peut vivre autrement que par la prière. Et c'est dans ses prières et dans la connaissance de son Dieu, quand il prie, que Dieu lui révèle les choses. Quand les rois rêvent qu'ils ne sont pas capables de l'expliquer, Daniel, c'est dans la prière que Dieu lui révèle. Des fois, on veut savoir beaucoup de choses sans s'approcher de Dieu. On veut que les autres s'approchent de Dieu pour nous, mais nous, on ne peut pas s'approcher de lui. Des fois, les gens m'ont dit, quand j'étais en Afrique, ils m'ont dit, « Pasteur, Adama, prie pour moi, prie pour moi. » J'ai dit, « Oui, je vais prier pour toi. Toi, est-ce que tu pries pour toi-même ?»« Ah, je n'ai pas le temps. »« Ah ouais ? Tu es chrétien, tu n'as pas le temps. » Alors, le Saint-Esprit qui est en moi, là, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Pourquoi toi, tu ne peux pas prier ? C'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Il ne m'a pas donné un Saint-Esprit plus différent du tien. C'est le même que chaque enfant de Dieu a reçu. Pourquoi tu ne peux pas prier pour toi-même ? On dit, ouais, nos enfants sont partis par-ci, nos enfants sont partis par-là, nos enfants ne suivent pas le Seigneur. J'ai posé la question, frères et sœurs, je comprends, je ne veux pas accuser aucun parent. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas l'objectif recherché non plus. Mais je voulais poser la question. Par rapport au nombre de temps que nous mettons à chercher de l'argent dans le monde, combien de temps nous mettons pour prier sincèrement pour nos enfants et pour nos femmes et pour notre vie de couple, pour notre vie de famille ? Mon couple a sauté. Oui, c'est vrai. Ça peut arriver à n'importe qui. Des fois, des gens sont victimes de cela. Mais combien de temps vous mettez tous les jours et priez pour votre mari qui vous casse les pieds tous les jours? Pour votre femme qui vous lance les chaudrons tous les matins? Combien de temps vous mettez par jour à genoux et fléchir? Seigneur, cet homme-là, tu me l'as donné. Cette femme-là, tu me l'as consacrée. Oui, elle fait des choses que je n'aime pas. Il fait des choses que je n'aime pas. Mais je n'accepte pas cela. Je prie que tu le changes. Moi, je ne peux pas le changer, mais donne-moi de l'aimer. Mais toi, c'est ton rôle de le changer. Change-le. Change ma femme. Change mon mari. Change mes enfants. Change mon patron. Change mes collaborateurs, mes amis avec lesquels je travaille. Leurs comportements ne sont pas dignes. Je prie tous les jours pour eux, pour que Dieu les change. Mes enfants, nos enfants dans l'église et à l'école, leur avenir, on les place sur l'autel de Dieu. Seigneur, je sais, Dieu est témoin. Je prie quasiment pour chaque jeune de l'église ici. Je ne suis pas le seul, mais plusieurs le font. Quand je demande à Dieu, je veux du succès pour chaque enfant. Je prie que chaque enfant réussisse. Je prie que chaque enfant ne soit pas un délinquant pour aller gonfler le nombre des brigands et des bandits dans la rue. Je prie que chaque enfant réussisse et qu'il soit un citoyen sain, digne et conscient. Et qu'il travaille pour la nation. Je prie que chaque couple réussisse. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs d'entre nous font ça probablement. S'il vous plaît, frères et sœurs, Daniel était un homme de prière. Non seulement il était un homme de prière, il était un homme de foi. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas prier si tu ne crois pas que Dieu peut faire des miracles. Tu ne peux pas prier si tu ne crois pas que ta prière peut être entendue dans le ciel. Tu ne peux pas prier si tu ne crois pas que par ta prière, Dieu peut changer le monde autour de toi, que Dieu peut te changer toi-même. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Hébreux, « Or sans la foi, il est impossible de lui être. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes chrétiens. Priez avec foi. C'est-à-dire prier avec confiance. Une confiance inébranlable. Daniel, non seulement était un homme de foi, Daniel un homme saint, Daniel un homme de prière et de foi, mais Daniel était aussi un homme intègre. Un homme intègre qui faisait passer la volonté de Dieu avant sa propre vie. Nous pouvons voir cela réellement dans Daniel chapitre 6, à partir de versets 5, 4 et 5. Je vais le lire pour vous. Alors les chefs des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvons dans la loi de son Dieu. À moins que nous en trouvions dans la loi de son Dieu. Daniel était un homme intègre dans la gestion des affaires du royaume. C'est-à-dire qu'il gérait le royaume comme s'il gérait les affaires de Dieu. Il ne le faisait pas à la main morte avec la paresse. Il ne dit pas, bon, moi je suis esclave, je sais pas mon pays, c'est pas mon pays, je vais gérer de sorte qu'il tombe, que rien ne fonctionne là-bas, que tout jamme, tout bloque dedans. Non. Il ne travaillait pas d'une manière hypocrite. Il travaillait avec sincérité. Il était intègre dans la gestion de la nation. À tel point que les païens rendent témoignage de Daniel en disant que cet homme-là, il est droit et qu'on n'a rien à lui reprocher. On n'a rien à lui reprocher. On cherche des failles dans son administration pour essayer de le créer des troubles, il n'en trouve pas. Et il dit, franchement, si on veut faire périr cet homme-là, il faut qu'on trouve quelque chose dans la loi de son Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire quelque chose que son Dieu n'accepte pas, en disant, si on fait ça, Daniel va dire non. Comme ça, on pourra le saisir, on va le punir. Même, ils ont tout fait. Malgré cela, Dieu a délivré Daniel parce qu'il était innocent. Je vous demande, frères et sœurs, quel témoignage avons-nous comme Église au Cap de la Madeleine? Que disent les païens de nous? Que disent nos voisins de nous? Que disent vos voisins à la maison de votre témoignage? Que disent vos patrons? Ils sont des païens, vous travaillez avec plusieurs inconvertis qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous leur avez dit que vous croyez au Seigneur. La ville de Babylone, tout le monde savait que Daniel priait trois fois par jour. Tout le monde savait que Daniel est le serviteur fidèle du Dieu très haut, du Dieu vivant. Alors, il vivait en conséquence de sa foi et en conséquence de ce en quoi il croyait. Qu'est-ce que l'Église dira? Qu'est-ce que les voisins diront de nous? La société dit de nous comme Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Quel est notre témoignage? Sommes-nous pertinents dans notre témoignage? Est-ce qu'on dit que nous sommes des hommes, une équipe, une église digne de ce nom? Une église qui craint Dieu? Une église qui marche dans la droiture? Une église qui ne se compromet pas en aucun moment? Une église dont les leaders et les fidèles sont dignes d'être appelés enfants de Dieu? Ou ils disent le contraire? À quoi ressemble notre témoignage? Si les gens devaient écrire, c'est des païens qui témoignent. Ce n'est pas des Israélites qui parlaient de Daniel, c'est des païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On dit, cet homme-là, il n'y a rien, il est intègre, il est droit. On ne pourra rien contre lui. À la maison, que disent vos enfants de votre témoignage en tant que chrétien? Comme papa, comme maman, comme mamie, papy, qu'est-ce que les gens disent de vous de cela? Dans votre propre maison. On va dire, ah, vraiment, on dit, on n'est jamais prophète ce soir. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que tu vis d'une manière intègre? Daniel, on pouvait dire quoi que ce soit de lui, mais il était intègre. On pouvait ne pas aimer sa tête, mais il était intègre. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes intègres. Daniel, un homme saint qui refuse de se compromettre. Il refuse toute forme de compromis. L'adoration de d'autres dieux, il rejette tout cela. Daniel, un homme de prière. Daniel, un homme intègre qui marche dans l'intégrité. Et la Bible nous demande que nous soyons intègres dans notre façon de vivre tous les jours. Maintenant, ce que nous savons, en conclusion, nous venons de voir que Daniel est un homme saint. Daniel est un homme de prière et de foi. Daniel est un homme intègre. Sa vie n'était pas importante pour lui, pourvu que la gloire de Dieu soit atteinte. Tout ce que nous savons de cette vie de Daniel, qu'est-ce que cela nous enseigne, vous et moi? Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que si nous voudrons être comme Daniel, si nous voudrons vivre et dire hashtag je suis Daniel, et nous voulons vraiment l'être, si nous ne le sommes pas et que nous voulons le devenir, alors nous devons développer une vie de sainteté. Nous devons développer une vie de prière et de foi. Nous devons développer une vie d'intégrité. Et l'intégrité, c'est un caractère. C'est ce que nous devons développer. Et marcher dans cela. Et pour cela, pour couronner tout ça, on pourra dire en un mot, quand on regarde toute la vie de Daniel, Daniel, homme de Dieu, Daniel, un homme fidèle, quoi qu'il en coûte. C'est un frère qui m'a rendu visite récemment cette semaine, avec lequel on parlait. Et puis, il m'a rappelé le livre de Maurice Decker, où c'était écrit dessus, « Fidèle, quoi qu'il en coûte ». En discutant de cela, j'ai dit, « Waouh, c'est bien ». Il a dit, « Daniel aussi, ça ferait ça ?» J'ai dit, « Oui ». Et j'ai pris ça. Merci frère, pour m'avoir donné ce conseil. Daniel, homme de Dieu. Daniel, le bien-aimé de Dieu. Daniel, fidèle, quoi qu'il en coûte. Alors ma question maintenant que je dis, et l'encouragement que je nous donne à nous-mêmes, soyons des Daniel. Soyons des Daniel, fidèle, quoi qu'il en coûte. Peu importe tu vas être cette semaine. Peu importe ce que tu vas faire cette semaine. Peu importe les difficultés et les choses que tu vas rencontrer cette année. Comme peuple de Dieu, comme l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, née de nouveau en Jésus-Christ, une église établie, restaurée par l'Éternel, soyons des Daniel, soyons des Moïse et soyons d'autres hommes qui vont venir apporter la parole sur les autres personnages. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, moi le premier, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur. Toutes les fois où cette vie de sainteté ne m'a pas habité, ne m'a pas préoccupé autant comme ça devrait l'être. Toutes les fois où dans l'église, nous n'avons pas marché dans sa sainteté comme toi tu nous le demandes. Toutes les fois où nous avons faibli dans la prière, où nous avons manqué de foi, Seigneur, s'il te plaît. Où nous n'avons pas été intègres. C'est contre toi que nous avons péché, premièrement, et contre nos frères et sœurs. Nous te supplions, je t'en prie, pardonne-nous. Lave-moi et purifie-moi, moi le premier, et mes frères et sœurs aussi. Et toute personne ici qui vit dans cette situation irrégulière, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, donne-nous de ne pas être une église qui nage dans des compromis, qui vit dans des compromis. Donne-nous de nous éloigner de cela. Fortifie nos familles et fortifie mes frères et sœurs qui travaillent dans le monde séculier, qui sont confrontés à toute forme de corruption tous les jours. Donne-leur la force et la capacité de tenir debout dans l'adversité. C'est au nom et pour la gloire de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.